Crío Cuervos.
¡Crío Cuervos!
¡Crío Cuervos!
Crio cuervos parce que les corbeaux qui se déploient dans nos têtes échappent à la réalité de la case à laquelle on évolue. Crio cuervos, c'est un espace pour rendre visible ce que l'on cache dans l'institution du pouvoir et au plus profond de nous. Ce qui nous fait peur et nous fait obéir. Un témoignage de nos tristesses, de nos joies, de nos défaites et de nos victoires. Une expression de la douleur qui nous fait sentir vivants ou qui nous crève. Un pot de la pétarade ferrite qui nous fait exister. Un lieu pour détruire tous ces vêtements et ces barbelés qui encerrent nos têtes. Un temps pour échanger des savoirs et des expériences, pour se réveiller et vivre selon nos désirs. Un temps pour parler comme on l'entend, en se contrefoutant des codes policiers de l'expression raisonnable. Un espace où les filets de gaz sont libre antenne. Un lien vers la révolte. Crio Cuervos peut être un outil de résistance au pouvoir psy. Un élan vers des pratiques collectives dans un processus de libération de la psychiatrie. Notre passion n'est diagnosticable, notre passion n'est pas diagnosticable.
Et donc voilà, émission numéro 9 de Crio Cuervos. Donc la suite logique de l'émission numéro 8, qui, je vous le rappelle, parlait de marge. Présenter rapidement quel type de revue c'était et pourquoi elle nous intéressait. On a choisi de compléter cette première émission par une interview avec Gérald Dittmar, qui était partie prenante de l'aventure, et donc c'était intéressant d'avoir son point de vue. À la suite de cette interview, qui dure environ une vingtaine de minutes, nous vous ferons part de nos réactions et de nos réflexions par rapport à ce qu'il peut dire. Et également apporter quelques compléments succincts sur des points qui pourraient être un peu flous pour un auditeur non avisé, dirons-nous.
coup, nous venons d'écouter un groupe britannique des années 80 qui s'appelle, la chanson s'appelle Happy House, et en gros ça parle d'une maison de rêve. C'est assez sarcastique puisque ça parle d'un asile où on donne des médicaments.
Et voilà, pour commencer, une petite brève, comme c'est l'habitude pour l'émission, sauf que celle-ci, on est allé la puiser dans l'année 1976, puisque à cette année-là, 12 militants de marge ont décidé une intervention qui serait peut-être plus trop possible aujourd'hui, puisqu'ils ont choisi d'aller occuper l'ambassade du RSS, ni plus ni moins. Ils sont bien sûr heurtés au cador de la maison. Cette intervention, c'était pour protester contre la répression psychiatrique des dissidents politiques en URSS, notamment avec des injections forcées, l'invention quand même du concept de psychose maniaque de la critique politique, qui est bien révélatrice de l'époque.
On a créé une belle étiquette.
Voilà. Mais aussi des pratiques de packing où la personne était enveloppée de bandelettes tellement serrée qu'elle s'évanouissait, et parfois 23 heures sur 24. Même si le packing peut être contesté, on est quand même là dans vraiment son usage le plus absolu, et donc pas très loin de la torture. Voilà, donc intervention de ces 12 personnes dans l'ambassade, ils squattent une pièce, qui barricade, ils mettent un drapeau noir à la fenêtre, ils balancent des tracts dans la rue qui étaient intitulés « Vivre libre ou mourir ». Ça n'a pas loupé, donc ils se sont fait choper. Première condamnation à 3 mois de sursis pour 10 militants et 3 mois ferme pour 2 autres. Tout ça s'est bouclé par un sursis en deuxième instance générale, puisqu'il y avait eu un comité de soutien assez important et caractéristique de l'époque, avec intellectuels, antipsychiatres, syndicats, etc. Cette anecdote, on va dire, je l'ai trouvée dans un bouquin de Jean-Luc Lesage de La Haye qui s'appelle « La mort de l'asile », et je vous citerai juste la fin du paragraphe sur le sujet. « La méchante publicité, une fois de plus donnée au goulag, remet en cause l'institution psychiatrique au service d'un État autoritaire et permet encore de dénoncer l'enclave totalitaire que constitue l'asile au sein d'une démocratie. C'était l'objectif de marge, il était atteint. » Bon, est-il encore atteint aujourd'hui? Ça reste à voir. Serons-nous à même d'aller squatter les ambassades d'ici ou d'ailleurs? Ça reste infiniment doutable.
Surtout dans les pays communistes, c'est encore très chouette. S'il reste encore des pays communistes, il faut aller les voir dans ces ambassades.
Voilà.
Du coup, on a choisi de parler dans cette seconde émission du journal Marge, dont on a parlé sur le volet d'une première émission. Ce journal a été écrit et édité dans les années 70-80. Il a traité un certain nombre de sujets, dont la question des psychiatrisés, et c'est pour ça un peu qu'on s'en est saisi, mais pas seulement. Le contexte de cette interview, c'est la rencontre de Gérald Dittmar dans sa librairie, dans une journée de pluie. Je ne sais pas si on l'entend bien, mais on entend le cliquetis des gouttes d'eau. Au mois d'avril, on est monté un petit peu et puis on a improvisé cette interview auprès de ce personnage un peu charismatique qu'est Gérald Dittmar.
Ouais, on a improvisé dans le sens de ce qui suppose aussi, du coup, on n'avait pas potassé à fond le sujet. Et de toute façon, notre parti pris, c'était plutôt d'arriver à avoir un point de vue assez général sur Marge, de rendre Marge accessible, et pas de rentrer dans des questions de querelles de chapelle ou de trucs vraiment trop précis. Bon, vous allez entendre, le bonhomme a quand même une maîtrise de son propos, maîtrise qui passe un peu par la langue de bois parfois, mais ça c'est à vous de le juger. Et bon, ça peut se comprendre, voilà, il est responsable de ce qu'il dit, il l'assume, mais il le maîtrise. C'est aussi une relecture, forcément, du passé à partir de sa position actuelle. Ça s'entend aussi parfois, on en rediscutera. Voilà, c'était un peu moi ce que j'avais à dire en introduction.
Ouais, c'est vrai que quand on a fait l'interview, on n'avait pas tout lu de Marge. C'est vrai que maintenant, on commence à avoir un petit peu plus des informations, on a lu un petit peu mieux les journaux et tout, alors on commence à avoir un peu plus de recul. Alors la première chose que je trouve que ça peut être intéressant à dire, c'est que c'est une revue assez intéressante, comme on avait vu dans l'émission d'avant, précédente, mais que nous, on ne veut pas du tout les mystifier, parce que c'était une revue qui portait des discours très importants et très, très, très intéressants.
mais que quand même, voilà, il y a un peu de tout aussi. Il y a des trucs très intéressants, des trucs un peu moins intéressants, des trucs qu'il trouve réactionnaires et des trucs aussi de certains articles qu'il ne comprend pas vraiment comment ils sont arrivés à inclure certaines paroles dedans.
L'idea di vedere i tuoi occhi, di abbracciare la nostra creatura, che mi diede la forza e il coraggio di andare contro la natura, di sorridere agli infermieri, di pesare ogni parola, e alla notte ogni grido che usciva, ricacciarmelo dentro in gola. E qualcuno poi disse, guarda lì l'agitato. Passati 8 mesi, sembra un po' migliorato. Fu l'idea di vedere i tuoi occhi, di giocare con la bambina, che mi fece ingoiare in silenzio ogni loro medicina, e mi diede la forza e il coraggio di rispondere senza urlare al dottore che aveva schedato la mia malattia mentale. E un bel giorno venisti col tuo abito a fiori, mi prendesti la mano, mi portasti di fuori la voglia di uscire si trasforma in voglia di pane, il discorso era sempre lo stesso, proprio fra 2 settimane, imparai a riconoscere presto dietro quello strano impaccio, una legge senza parole, fredda e dura come il ghiaccio. Quella sera ricordo, tu dormivi al mio fianco, ma la stanza girava e di colpo fui stanco. Furono sempre le stesse facce a legare questo mio male, la stessa iniezione nel braccio a portarmi in ospedale, con lo stesso soffitto imbiancato, con gli stessi scarabocchi, dove ormai la paura e il silenzio nascondevano i tuoi occhi. E qualcuno poi disse, guarda lì l'agitato, sono passati 8 giorni e c'è già ricascato.
Et donc, nous venons d'écouter un morceau de musique italienne de Gianni Nebbiosi. C'est un morceau des années 70 qu'on a reçu. Merci Alice. Et donc, cette personne était étudiante en médecine et à cette occasion, elle a fait un passage en psychiatrie. À la suite de quoi, ce gars a écrit un album de 6 morceaux, qui a eu beaucoup de mal à sortir, qui a circulé sous le manteau, où il dénonce la réalité psychiatrique. Ce morceau-là donne le point de vue d'un gars voilà, qui est enfermé et qui doit gober les médocs et accepter le diagnostic en pensant sans cesse à sa femme et sa gamine pour tenir, quoi. Voilà. Et ça finit pas très bien avec
une
dure
distance sociale que crée la maladie.
Ouais, et que crée, y compris au sein du couple, voilà. Que l'icône qui vous permet de survivre à l'intérieur, quand vous vous retrouvez dans son lit, c'est pas la même réalité. Voilà. Et donc, voilà, on va écouter l'interview avec Dietmar.
Un jour des pluies.
D'avril 2012.
Alors, Marge, c'était quoi?
Alors Marge, d'abord, ça a été bien évidemment l'idée de faire un journal dans lequel un certain nombre de groupes menant des luttes spécifiques, lutte des femmes, donc lutte des psychiatrisées, toxicomanes, prostituées, anciens taulards, etc., pourraient s'exprimer et écrire donc un certain nombre de textes, de papiers pour dire voilà ce qu'il pensait.
Et comment c'est né?
Alors c'est né comme un peu toutes les aventures de cette nature. c'est né à partir de rencontres de quelques personnes qui ont ressenti en même temps le désir de faire ce journal et pour pouvoir parler effectivement de toutes ces questions-là qui étaient en général des sujets totalement occultés dans la presse militante officielle, voire institutionnelle, en raison de son dogmatisme.
Et qui en faisait partie alors ?
Alors, qui en a fait partie ? Ben, alors, toutes sortes de personnes, c'était très enfin intergénérationnel, bon, mais il y avait beaucoup bien sûr de jeunes qui avaient donc vécu des expériences diverses, hein, soit l'hôpital psychiatrique, la prison, la drogue, la prostitution, et donc ce sont des personnes qui sont venues spontanément participer à ce journal.
Et du coup, le journal se rédigeait comment ? Vous aviez une conférence de rédaction ? Vous aviez des moments de groupe commun pour dessiner les sujets, tout ça ?
Alors, il y avait les fameuses réunions de marge dont Jacques Le Sage de La Haye donc, parle dans un de ses bouquins, je ne me souviens plus lequel, et où il fait une description, comme il le dit, ces réunions étaient totalement... indescriptible, c'est-à-dire que vraiment on avait une réunion à peu près une fois par semaine, c'était un peu l'auberge espagnole, tout le monde venait et c'était tout le monde pouvait s'exprimer librement, parler de son vécu, de son histoire, de son parcours, et c'était ça la grande richesse de nos réunions, avec beaucoup de respect les uns pour les autres, d'écoute, d'amitié, d'amour, une espèce de vécu commun comme ça, et c'était effectivement des réunions très très joyeuses, très 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 positives, et pour voilà, belles.
Et quelle obédience politique vous aviez alors?
Bon, on n'avait pas d'obédience politique, on était vraiment avant la lettre presque, on était des autonomes. Mmh. On était des autonomes. Alors il y avait bien sûr parmi toutes celles et tous ceux qui participaient donc à la vente du journal, à des actions, on va y venir je crois, eh bien il y en a qui étaient passés par des ce qu'on appelle des organisations politiques ou qui étaient encore dans des organisations politiques, mais la tendance, bien évidemment, politique, si l'on peut dire, était libertaire.
Et quel rapport ça avait vu avec les autres groupes, comme, je ne sais pas, Psychiatrie et Lutte, ou Handicapés Méchants ?
Alors, on avait des... C'était la merveille de la merveille de Marge, d'une certaine manière, c'est que nous avions des relations avec tout le monde. On était en contact avec le MLF, on était en contact avec le Comité d'action des prisonniers, donc le CAP, avec Psychiatrie et en lutte, avec les handicapés méchants. On était en contact avec vraiment tous les groupes, toutes les associations qui menaient des luttes, des combats, que l'on menait avec eux, à leur côté, ou parfois, à notre initiative, ils venaient nous rejoindre.
Et du coup, justement, en dehors du journal, à quelles activités et quelles luttes vous participiez ? Qu'est-ce que vous mettiez en place ?
Alors, on participait pas à des luttes molaires du genre grève, voilà, occupation d'usines, etc. Mais les luttes auxquelles on participait, c'était ou les luttes que l'on menait, c'était plutôt des... Bon, alors bien sûr, déjà, on développait un discours très, très critique par l'intermédiaire du journal, et on participa. Par exemple, on était dans le réseau Alternative à la psychiatrie, et donc on avait participé à ce grand rassemblement qui s'était tenu à l'hôpital psychiatrique de Trieste chez Francesco Bassaglia, où nous avons joué un rôle très, très d'avant-garde dans la critique d'une de ce qui risquait de se mettre en place à l'époque, c'est-à-dire un discours antipsychiatrique, mais très convenu, très institutionnalisé. Et nous avons eu le grand bonheur et le grand plaisir que le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire Bassaglia, soit avec nous.
Et alors, vous aviez des liens avec des groupes à l'étranger, c'est ça ?
Alors, des liens avec les groupes à l'étranger, on avait pas de lien très direct, mais on était connus, en particulier en Italie, et donc c'est vrai qu'on a été reçus, accueillis, invités par les Italiens. On était hébergés je me souviens, à Padoue, chez des étudiants. On était après à Trieste, à Venise aussi. On avait participé aussi à plusieurs émissions des radios libres italiennes, dont la plus connue était Radio Alice. On était à Bologne, à la grande manifestation de Bologne, bien sûr, où on était 100 000 dans les rues. Donc on avait des contacts qui n'étaient pas des contacts formels établis, mais qui étaient des contacts, des relations. On se connaissait, quoi.
Et vous connaissez les SPK ?
Alors, les SPK, on les a pas connus personnellement, mais on avait entendu parler de leur lutte, de leur travail, bien sûr, politique. Mais on n'a pas eu de relation particulière avec eux. Les groupes avec lesquels on avait vraiment des contacts, c'était les groupes français. Comme Psychiatrisé en lutte, le MLF, le Comité d'action des prisonniers, le GIA, le groupe Information Asile, voilà.
Tu as parlé un peu de l'antipsychiatrie, du coup, comment vous perceviez ce mouvement-là ?
Alors, c'était une perception très, très positive, parce que l'antipsychiatrie, bien évidemment, était une réflexion critique sur la psychiatrie, sur l'institution psychiatrique qui a été développée par Leng, par Cooper, par Gentis, par Bassaglia, mais aussi par Deleuze, Guattari et d'autres psychiatres. Et donc le courant antipsychiatrique, évidemment, était un courant qui nous intéressait au plan théorique beaucoup.
Et la psychiatrie radicale, vous connaissez à l'époque ?
Non.
Et la psychanalyse, vous pensez quoi ?
La psychanalyse a toujours été une des conceptions, en tous les cas, de la psychiatrie, de la parapsychiatrie, ou de la psychologie, ou de la psychothérapie. C'était une conception qu'on a beaucoup critiquée pour des raisons théoriques, des raisons de fond. On est contre l'idée de la cure analytique. On était très critique, bien évidemment, de toute la problématique freudienne concernant son idée de la sexualité, son discours sur, la famille, ce qu'on appelait le familialisme, l'Œdipe. C'était la psychanalyse était vraiment pour nous une ligne idéologique, une conception idéologique de l'approche, en tous les cas, de la maladie, qui était fausse.
Et du coup, au sein de Marge, dans les gens qui s'occupaient et parlaient de psychiatrie, donc les psychiatrisés, est-ce qu'il y avait cette question aussi de quel rapport on va avoir avec les soignants, quel rapport on a avec le médicament, et donc de quel courant thérapeutique on veut se rapprocher? Est-ce qu'on met en place, nous, des outils entre nous pour aller mieux?
Alors, dans les années 70, c'était quand même très, très difficile. Les tentatives qui avaient été menées, entre autres à l'hôpital de Laborde par Oury, Guattari, étaient plutôt cette idée de sectoriser à ce moment-là l'hôpital psychiatrique qui était quasiment organisé sur un modèle 19e. Et avec usage intensif, bien sûr, des médicaments qui avaient donc succédé aux pratiques de la camisole de force. Et donc là, bien sûr, l'arrivée des neuroleptiques permettait de soigner, entre guillemets, autrement. Mais il était à l'époque, il était quand même très difficile d'apporter des réponses formelles, claires, parce qu'il y avait tellement de, comment dire, d'hypothèses, l'ergothérapie, la musicothérapie, l'art thérapie déjà, il y avait tellement d'idées. Et tout l'appareillage psychothérapique avec des écoles venues par exemple des États-Unis ou d'Angleterre, en particulier toute l'école du cri primal par exemple, Janoff, qui était purement expérimental, qui était totalement incertaine, se présentait comme des solutions, des vérités, mais en tous les cas n'était pas ni crédible ni plausible, voire même intéressante.
Et au sein des marges, quel point de désaccord il y avait? Parce que j'imagine qu'il a dû y avoir.
On ne peut pas parler de désaccord. Il y a eu comment dire, des oppositions qui portaient pas sur le fond, qui étaient plutôt des oppositions que personnellement moi je qualifierais aujourd'hui d'assez artificielles. Dans les groupes, il y a toujours des, comment dire, des anti-groupes quelque part, c'est-à-dire des espèces d'oppositions comme ça qui se créent. Presque sur le mode de il faut s'opposer pour exister. Mais la question, c'était de savoir contre quoi ils s'opposaient ou on s'opposait. Alors, il y a eu quelques oppositions, mais qui étaient beaucoup plus liées à des camarades, des personnes qui, elles, essayaient de donner un contenu plus traditionnel d'une certaine manière, c'est-à-dire qui voulait que l'on soit aussi quasiment une organisation de lutte sur des modèles, des groupuscules marxistes-léninistes, militants, intervenant dans les usines. Alors, par exemple, nous, on avait à l'époque une phrase très provocante, c'est-à-dire qu'on inscrivait comme ça sur les murs: vive le chômage. Bon, il était clair qu'on n'était pas pour le chômage, bien évidemment, mais dans une société de plein emploi, parler du chômage dans l'idée de parler de la paresse ou de la vacuité ou du droit de vivre, enfin, pas du droit de vivre, mais d'avoir aussi, quand on travaille, le droit de vivre, de faire autre chose que de travailler uniquement pour suppléer à ses besoins immédiats.
Alors, il n'y a pas eu des accords importants qui ont provoqué des scissions ou quelque chose comme ça, non?
il y a eu à un moment donné un groupe qui effectivement s'est retiré. Mais encore une fois, d'ailleurs c'est un groupe qui n'a pas survécu à lui-même, qui n'a rien fait, c'est-à-dire qui se sont opposés pour s'opposer plutôt que de s'opposer contre ce qui était dit, puisque de toute manière ils étaient là aussi par rapport à ce qui était dit et donc en plein accord avec ce qui était dit. Donc c'était une opposition de façade, quoi.
Mais c'était les marxistes-léninistes, comme ce que tu as dit avant, ou... un peu.
C'était des camarades qui venaient d'une pratique militante et qui avaient peut-être quelques difficultés à s'adapter à ces nouvelles formes de lutte.
Et quel lien vous aviez avec les lieux de vie? Est-ce qu'à l'époque, les gens qui étaient dans Marche faisaient des allers-retours avec ces lieux-là? Est-ce que...
Non, il y a eu sans doute quelques échanges avec les lieux de vie qui avaient été mis en place, je crois, plus ou moins dans le circuit de l'hôpital Marmottan dirigé par Olivenstein à l'époque, concernant les toxicomanes. Mais sinon, pour tous les autres, c'est-à-dire les psychiatrisés, etc., il n'y avait pas, à l'époque, de lieu alternatif encore.
Il n'y avait pas la recherche de ça, ou l'envie d'en créer ou...
On ne pouvait pas tout faire. On n'était pas prêts, nous, à penser à ces... Disons qu'on déléguait plutôt à d'autres à la mise en place de tels lieux. Notre raison d'être, c'était véritablement la critique et le soutien à toutes ces formes de lutte.
Et combien de temps ça durait l'aventure des marches?
Alors, c'est une aventure qui donc a commencé dans les années 74 et qui volontairement s'est arrêtée en 1980. Où on a fait une dernière réunion et où on a décidé de s'autodissoudre.
Et pourquoi ? C'était lié à l'élection de Mitterrand ou ça vous carrément pas ?
Non, c'était un petit peu avant l'élection de Mitterrand. C'était par rapport au mouvement de l'autonomie. Donc on s'était fondu complètement dans l'autonomie. Et donc on n'avait plus le désir d'exister de façon... autonome, on préférait participer à ce mouvement d'ensemble qui aussi avait réussi à fédérer, à réunir plusieurs groupes, dont camarades à l'époque.
Et il y a eu des groupes en province aussi, ou c'était que sur Paris?
Ah non, il y avait des... c'était très, très intéressant, il y avait des va-et-vient entre... Paris, la province, il y avait des groupes, c'est un bien grand mot, c'était quelques individus qui s'associaient et décidaient de faire quelque chose, de mener une action.
Des correspondants locaux, quoi.
On peut dire ça.
Et du coup, pour se replacer aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent, d'après toi, et dans quelle mesure, de se replonger dans les archives de Marge, et plus généralement dans cette période des années 60-70?
Je pense par exemple au numéro 10, qui a été le numéro des femmes, je crois, ou le numéro, non, je ne sais plus si c'est le 10 ou le 13. Le numéro des femmes, qui était vraiment un numéro uniquement fait par les femmes et dont les textes étaient très forts et très modernes, très actuels. Et donc je crois que ça peut être intéressant. Alors ça ne concerne pas seulement que Marge, hein. Je pense qu'il y a la presse de cette époque et globalement une presse intéressante, riche d'un point de vue historique, d'un point de vue critique, du point de vue de toutes les idées que ça a pu véhiculer. Je pense que non, c'est une presse qui fait partie de l'histoire, qui est constitutive en tous les cas de l'action d'aujourd'hui.
Et bon, maintenant vous venez d'écouter Vomito encore, c'est la deuxième fois qu'on passe dans Crio Cuervos Vomito. Vomito, voilà. Alors, comme ce qu'on avait dit précédemment, c'est un groupe du Pays Basque des tout débuts des années 80. Et ce morceau s'appelle Soy una bomba, je suis une bombe. Et c'est pas une bombe sexuelle. Bon, peut-être qu'il était à l'époque une bombe sexuelle, c'est vrai qu'il est un peu mignon, mais surtout c'est une bombe dans le sens mental. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à déranger. Et comme on est dans une émission de Mars, j'ai trouvé que c'était bien parce que ces gens-là de Mars, ils essayaient de titiller au moins, c'est le minimum qu'on pourrait dire, sinon un peu faire bouger les choses. Et qu'est-ce qui pourrait avoir rien de meilleur qu'avoir une bombe dans la tête?
Alors, on vient d'écouter Dietmar pendant une vingtaine de minutes dans cette atmosphère un peu cosy d'interview, un peu construite à ce moment-là. Du coup, on avait envie de réagir sur certains points qu'on a choisis un peu selon la réflexion collective qu'on a eue et de s'arrêter notamment sur peut-être ce qui est dit par Dietmar au niveau de la culture aliéniste qui existe dans les années 70 où il y a encore les grands hôpitaux avec... c'est carrément une ville dans la ville avec certaines zones autonomes, entre guillemets, de fonctionnement dans les hôpitaux. Et toute cette culture qui arrive de ce grand élan de la sectorisation, l'ouverture sur la ville, etc. Avec, on y reviendra tout à l'heure, un peu des idées piochées dans tout ce qui s'est passé en Italie. Et du coup, nous, on voulait un peu réagir sur cette idée. C'est qu'aujourd'hui, on en voit un peu les écueils de cette sectorisation avec le recul, où on voit que... Ben, de manière tout à fait perverse, a étendu la psychiatrie à toute la ville, alors qu'elle était cantonnée à un lieu, et à un hôpital, que finalement, la plupart des gens prennent des médicaments ou peuvent se reconnaître une maladie possible, qu'on a étendu aussi la diffusion des neuroleptiques. Ils parlent des neuroleptiques comme un soulagement. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y a très peu de traitements dans les hôpitaux. Mais bon, nous, aujourd'hui, on émettrait peut-être une petite critique et une prise de recul qui n'est pas suffisante à ce moment-là, peut-être. Et comment, aujourd'hui, la sectorisation est devenue tentaculaire et a déployé toute la psychiatrie.
Ben ouais, c'est vrai qu'il y a eu une psychologisation de la société avec toutes ces pratiques un peu plus étendues. Et on pourrait dire que, ouais, que les pouvoirs psychiatriques, ils s'est un peu étendus dans la société en soi-même, d'une façon peut-être un peu plus douce, ou en tout cas de façon plus chimique, à partir des thérapies, mais que quand même, voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui a passé un moment ou un autre par un centre de jour. Ouais.
Et que le côté qu'on pouvait reprocher à l'asile, qui était de parquer en dehors de la ville, et donc de la vie citoyenne, ou de la vie civile en tout cas, des personnes jugées folles, n'est pas vraiment résolu par le fait que on retrouve ces personnes peut-être dans les mêmes murs que nous, parce que c'est les voisins du dessous ou du quartier d'à côté, mais ils sont pour autant aussi bien laissés à l'abandon et dans un isolement qu'ils pouvaient l'être. Bon, c'est un peu caricatural, parce qu'effectivement, il y a des structures qui peuvent garder un certain lien social, mais ça reste parfois de l'ordre de l'artifice.
Et puis ça nous a donné envie de réfléchir à cette position des années 70 et ce qu'on peut, par rapport à l'interview d'Itmar, ce qu'on peut pas en critiquer, mais en ajouter, en ajoutant avec le recul, quoi.
Ouais. Un autre point qui me fait un peu, qui me titille, on va dire, c'est quand il parle des expérimentations de l'époque, des différents courants. Bon, il parle de la borde, etc. Ça,
le cri primal, là.
Voilà, de Janoff, ouais. Le cri primal, mais il y en a eu une chier d'autres, on va dire. Et donc, peut-être, on pourra prendre l'occasion de présenter une fois, hein, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous avez des noms de trucs qui viennent. Quoi, la psychiatrie radicale, comme
ah ouais,
tu
ça c'est très intéressant.
Il botte complètement en touche. Mais bon, voilà, l'approche reichienne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Toutes les approches hypnose, sophrologie, développement de soi, tatata. Ta, ta. Et tout ça, Dietmar, en deux coups de cuillère à peau, il dit que c'est expérimental, incertain, que c'est ni crédible, ni intéressant, ni plausible. Je suis un peu choquée d'entendre ça, parce que pour moi, mine de rien, ça reste des initiatives et des approches qui mériteraient d'être creusées et développées encore aujourd'hui. Quoi. On a difficilement accès à une réflexion critique de ces expérimentations-là des années 70.
Qui était quand même un contre-pouvoir aux thérapies qui étaient revendiquées comme les uniques, les seules qui étaient thérapeutiques et qui prenaient toute la place.
Ouais. et puis qui aujourd'hui pourrait être le contre-pied d'une médicalisation à outrance du soin, quoi. Et développer, voilà, des trucs un peu plus bancal peut-être, mais qui pourraient être porteurs un peu de bordel. Alors, on ne va pas attendre que le système psychiatrique actuel le fasse, mais mine de rien, moi je pense et j'espère qu'ils peuvent être crédibles, intéressants et plausibles, dans le sens impossible qu'on pourrait s'approprier et développer, au moins entre nous, voilà, ce qu'on peut faire un peu via la co-écoute, le travail sur le corps, etc., ce qu'on commence un peu à développer. Mais...
Ouais, c'est vrai qu'après, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il n'y a pas encore théorique si développé et si fixé par rapport à le travail sur le corps ou la co-écoute. Ce ne sont pas des approches thérapeutiques en soi-même, mais c'est vrai que c'est des outils qu'en tout cas, on peut se rapprocher. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tout parlé des patients de l'approche de Reich, c'est vrai que c'est une théorie qui s'est beaucoup plus développée, elle est beaucoup plus carrée, mais on pourrait peut-être se l'approprier d'une certaine manière. Mm-hmm. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a un certain lien. Mais ouais, pour dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. En tout cas, ce sont des approches, des outils qui peuvent se les approprier, mais ce n'est pas en soi-même des théories thérapeutiques en soi-même. Même s'il faut avoir un but qu'on pourrait les considérer comme thérapeutiques, entre guillemets.
Ok.
Et voilà, nous, on posait la question à Dietmar cet avril pluvieux. On lui posait la question de qu'est-ce qu'il pensait à l'époque. Il faut bien dire à l'époque, parce que c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il pensait à l'époque Dietmar de la psychanalyse. Et voilà, moi j'ai posé cette question parce qu'il trouvait assez intéressant qu'il y avait une petite idée de ce qu'il voulait répondre. Et je suis assez d'accord et plus. Alors c'est vrai que cette idée de critiquer la psychanalyse en tant qu'il prétendre curer.
Soigner,
parce qu'il parle de la cure, excusez-moi, ouais. De la cure, il croit dans la cure analytique. Et...
Parce que curer, c'est genre récurer, tu vois, récurer. Frotter le parquet.
Ou alors les curés.
Les prêtres, les prêtres, les prêtres, ouais. Les curas. Voilà. Mmh. Alors c'est vrai que ces points de vue, voilà, moi, je me sens assez proche, et même si l'antipsychiatrie en soi-même, ils se sont pas mal nourris de les courants psychanalytiques à l'époque. Mais voilà, nous, on est plutôt, en tout cas, moi, je suis plutôt dans une position que si on a du mal à reconnaître la maladie, on aurait du mal aussi à reconnaître qu'il faut soigner quelque chose. Aussi, bien évidemment, voilà, la psychanalyse, elle a été fondée par quelqu'un de blanc hétérosexuel à l'époque. Une certaine...
Et viennois en plus.
Et viennois.
Et médecin.
Ouais. Et alors voilà, il y a une certaine idée de sexualité qui, bien évidemment, ça me convient pas trop. Et la plupart des copains et copines non plus. Alors, il y a encore... C'est pas qu'une histoire de fraude... Sinon, il y a encore peut-être quelques néo-freudiens qui récupèrent cette idée de cette trace de la sexualité, en tout cas d'un certain type de sexualité, et aussi une pulsion érotique que peut-être voilà, il faut creuser pour la remettre en question. Et notamment, surtout, par rapport à l'idée de familialisme, il dit, non
les rôles,
familialisme, voilà, les rôles importants qui peut avoir la famille dans ce moment-là. Voilà.
Ouais, juste un point, moi je trouve que... Quoi, jeter le freudisme, ok, mais par contre l'inconscient et le rôle du rêve, pour moi, c'est partie intégrante de la marge, et il faut pouvoir vraiment la préserver et la valoriser.
Mais je ne suis pas tout à fait sûr sur l'idée d'inconscient. Alors voilà, mais ça
pour
une autre émission peut-être, pas tout à fait sûr.
Ça ne m'étonne pas que tu aies des soucis avec la notion d'inconscient, du non maîtrisable.
Mais je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, ma notion d'inconscient.
Si on va te conscientiser sur ta problématique.
Et du coup, on peut faire un enchaînement avec le freudo-marxisme, du coup.
Bah si tu le sens, vas-y, mets-toi à l'aise.
Alors ouais, dès qu'on parle de marxisme, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un certain poids, bon, comme un peu il y a maintenant aussi, les marxistes. Et c'est vrai que à moi, ça me plaît bien aussi ce qu'il dit Dietmar, comment il y avait certaines personnes qui ne sont pas arrivées à s'adapter à les nouvelles manières de militer. Parce que voilà, nous, on les pose la question de pourquoi, si est-ce qu'il y a eu des excisions au sein du groupe, et pourquoi. Des différences.
Ouais, des scissions.
Des scissions,
parce que des excisions, c'est autre chose.
C'est coupé, ouais. C'est coupé en trou, quoi.
Ouais.
Et, alors voilà, il y a des différences. Pourquoi il y a eu cette différence? Et lui, il vient un peu expliquer qu'il y a certaines personnes qui viennent des groupes politiques, ce qu'il qualifie de traditionnels. Et notamment, moi, je peux dire que c'est les marxistes. Et voilà, il dit que si, parce que mine de rien, il dit qu'il vient d'une tendance libertaire. Marx, finalement, il savait à peu près une tendance libertaire. Et ça ne m'étonne pas que les marxistes, ils ont eu du mal à se faire des nouvelles habitudes révolutionnaires, parce qu'ils ont eu toujours du mal à s'ouvrir à des courants révolutionnaires soi-même, parce qu'ils croyaient qu'avec son idée bien préconçue de qu'est-ce qu'il faut faire pour aboutir à la dictature du prolétariat. Mais bon, ça ne m'étonne pas qu'en travaillant avec des PD, des toxicos...
La dialectique est un peu perturbée.
La dialectique est un peu perturbée. Il faut que les fraudo-marxistes, ils considèrent plutôt la dialectique la dialectique dans les devenirs des marginaux. Et pour l'instant, ils ne s'étaient pas trop dans ça. Alors, je trouve que c'est assez bien. Ouais. En plus, par rapport à ce que tu venais de parler de la URSS, c'est vrai que ouais, ça rajoute une jolie couche pour s'il y a des auditeurs, auditrices...
Marxistes.
Marxistes, mais voilà. Bon... C'est cool. C'est cool comme c'est cool. Voilà. Et voilà.
Et du coup, ça fait une belle transition avec ce qu'on voulait aborder aussi. On voulait resituer un petit peu le contexte en Italie à l'époque, avec l'expérience de Basaglia, qui est un grand nom, mais il n'a pas été tout seul, bien heureusement. Avec tout ce mouvement de fermeture des asiles en 78, avec l'expérience de Trieste notamment, dont il parle aussi de Venise, de Bologne. Du coup, le marxisme, ça nous fait un bel enchaînement avec peut-être toute cette logique de une réappropriation ou un nouvel élan de la lutte des classes en Italie, avec ce qui s'est passé avec la fermeture des asiles en 1978, les premières expériences. Dietmar, il parle de Trieste, il parle de Bologne, il parle de Venise, avec toute cette idée que finalement c'est l'institution de soins qui prend en charge les psychiatrisés et que ça ne peut pas être séparé de la question sociale et du réengagement de la population. On voit à cette époque tout un questionnement avec les comités de quartier qui réfléchissent à qui accueille un tel et où la population redécouvre que c'est des gens qui sont entre guillemets en souffrance ou en différence mais qui ne sont pas malades en tant que tels, et c'est comment le mode de communication n'est pas le même. Ça pose vraiment toute la question du cadre social avec une Italie paysanne qui devient ouvrière rapidement après la Deuxième Guerre mondiale, et toute cette lutte des classes et quelle place on donne aux maladies et comment on ferme les hôpitaux pour pouvoir recréer du lien social au sens premier en ville, quoi. Et comment aussi on fait réfléchir à une vraie conscience politique de ce que c'est qu'un travailleur de la santé mentale, toutes ces questions.
Ouais, ça sera un bon morceau aussi pour une prochaine.
Pour une prochaine.
Et puisqu'on est dans l'histoire et que c'est mentionné par Dietmar aussi, juste vous dire qu'il y a un bouquin pour parler du réseau alternatif à la psychiatrie qui mentionne. C'est ce réseau qui est né en 75 à Bruxelles et qui a rassemblé notamment des gens comme Marge ou comme Basaglia. Et ce bouquin, il est publié en 77 chez 10-18. On a la chance d'en avoir trouvé un exemplaire. À l'occasion, on vous fera un petit compte-rendu où on en tirera la substantielle ou stifique moelle pour en reparler.
Mais voilà, on dirait que ça va être bientôt la fin, non, de notre émission. Et vous voyez, je voulais mettre comme un petit mot, c'est la fin, mais je voulais rebondir par rapport à pourquoi ils se sont autodissus, parce qu'il explique pourquoi ils se sont autodissus à un moment, et c'est parce qu'ils se sont fondus dans l'autonomie, et ça, ils trouvent que c'était bien, et soi-même qu'ils arrivent à finir, que ce ne soit pas dans une galère qui dit on pète dans tous les sens, plutôt dit, bon, on s'arrête, on a plutôt fait un travail pendant quelques années, maintenant, on se sent bien à l'aise dans ce nouveau mouvement autonome. Qui arrive. Je me pose la question si c'était plutôt parce que eux, ils croyaient que ces nouveaux mouvements autonomes, ils reprenaient pas mal de sujets que eux, ils ont travaillé autour de la marginalité. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de s'arrêter aussi des aventures collectives.
Et juste pour continuer dans la démystification quand même, j'avais lu des entretiens d'une nana là, qui avait fait partie de Marge et qui disait que ça s'était aussi fini pour beaucoup, soit par la mort avec le sida via l'héroïne, soit par suicide, soit par la marginalisation, clochardisation, quoi, des gens qui ont été jusqu'au bout de la marche, quoi.
Mais peut-être qu'il y a eu des conflits, et voilà, on espère qu'il y a eu des conflits. Il a dû y avoir quelques petites différences théoriques aussi qui sont faites.
Il y a notamment une revue là, des gens de marche qui ont rejoint la revue Matin d'un Blues. Bon, on trouve peu d'infos, quoi. J'ai peu trouvé d'infos sur le sujet, donc c'est une revue qui partait plus sur un truc de poésie avec des gens de camarades que mentionne Dietmar là. Et voilà, qui était aussi intéressante mais qui n'a pas duré très longtemps.
Bon,
Et du coup, on remercie Dietmar pour cette interview tout et ce fait. Temps passé avec lui qui était assez agréable ouais. et un bel échange qui nous a permis de réfléchir à tous ces thèmes.
Tout à fait. Ouais.
Et on se retrouve dans 15 jours pour la rediffusion et la prochaine émission. Surprise, surprise.
Surprise. Ça va être...
Vous l'aurez peut-être compris, c'est une émission enregistrée.
Ah oui? Non, 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 c'est janvier. Oh là là, Noël, ça fait chier. C'était dur.
On en a futurement bavé.
Voilà. Voilà. Peut-être du coup, vous avez des bruits de canapé, des planchers. Mais bon.
Bon, salut. Allez. Salut.
Ciao, bye.
Crío cuervos.
¡Crío cuervos!